Lettre 132 de Madame de Sévigné au comte de Bussy, à Paris le 6 août 1675. Je ne vous parle plus du départ de ma fille, quoique j'y pense toujours et que je ne puisse jamais bien m'accoutumer à vivre sans elle. Mais ce chagrin ne doit être que pour moi. Vous me demandez où je suis, comment je me porte et à quoi je m'amuse. Je suis à Paris, je me porte bien, et je m'amuse à des bagatelles. Mais ce style est un peu laconique, je veux l'étendre. Je serai en Bretagne, où j'ai mille affaires, sans les mouvements de cette province qui la rendent peu sûre. Il y va 6 000 hommes, commandés par Monsieur de Forbin. La question est de savoir l'effet de cette punition. Je l'attends, et si le repentir prend à ces mutins et qu'ils rentrent dans leurs devoirs, je reprendrai le fil de mon voyage et j'y passerai une partie de l'hiver. J'ai bien eu des vapeurs, et cette belle santé que vous avez vue si triomphante a reçu quelques attaques dont je me suis trouvé humilié, comme si j'avais reçu un affront. Pour ma vie, vous la connaissez aussi. On la passe avec 5 ou 6 amis dont la société plaît, et à 1000 devoirs à quoi on est obligé, et ce n'est pas une petite affaire. Mais ce qui me fâche, c'est qu'en ne faisant rien, les jours se passent, et l'on vieillit, et l'on meurt. Je trouve cela bien mauvais. La vie est trop courte. À peine avons-nous passé la jeunesse que nous nous trouvons dans la vieillesse. Je voudrais qu'on eût 100 ans d'assuré et le reste dans l'incertitude. Ne le voulez-vous pas aussi, mon cousin? Mais comment pourrions-nous faire? Ma nièce sera de mon avis selon le bonheur ou le malheur qu'elle trouvera dans son mariage. Elle nous en dira des nouvelles ou elle ne nous en dira pas. Quoi qu'il en soit, je sais bien qu'il n'y a point de douceur, de commodité, ni d'agrément que je ne lui souhaite dans ce changement de condition. J'en parle quelquefois avec ma nièce la religieuse. Je la trouve très agréable et d'une sorte d'esprit qui fait fort bien souvenir de vous. Selon moi, je ne puis la louer davantage. Au reste, vous êtes un très bon almanach. Vous avez prévu en homme de métier tout ce qui est arrivé du côté de l'Allemagne. Mais vous n'avez pas vu la mort de M. de Turenne, ni ce coup de canon tiré au hasard qui le prend seul entre 10 ou 12. Pour moi, qui vois en tout la Providence, je vois ce canon chargé de toute éternité. Je vois que tout y conduit M. de Turenne, et je n'y trouve rien de funeste pour lui, en supposant sa conscience en bon état. Que lui faut-il? Il meurt au milieu de sa gloire. Sa réputation ne pouvait plus augmenter. Il jouissait même en ce moment du plaisir de voir retirer les ennemis et voyait le fruit de sa conduite depuis 3 mois. Quelquefois, à force de vivre, l'étoile pâlit. Il est plus sûr de couper dans le vif, principalement pour les héros, dont toutes les actions sont si observées. Si le comte d'Harcourt fut mort après la prise des îles Sainte-Marguerite ou le secours de Cazaille, et le maréchal du Plessis-Praslin après la bataille de Rethel, n'aurait-il pas été plus glorieux? Monsieur de Turenne n'a point senti la mort. Comptez-vous encore cela pour rien? Vous savez la douleur générale pour cette perte et les 8 maréchaux de France nouveaux. Vaubrun a été tué à ce dernier combat qui comble Monsieur de Lorge de gloire. Il faut en voir la fin. Nous sommes tous transis de peur jusqu'à ce que nous sachions si nos troupes ont repassé le Rhin. Alors, comme disent les soldats, nous serons pêle-mêle la rivière entre deux. La pauvre Madelonne est dans son château de Provence. Quelle destinée! Providence, Providence! Adieu, mon cher comte, adieu, ma très chère nièce. Je fais 1000 amitiés à monsieur et madame de Toulonjon. Je l'aime fort, cette petite comtesse. Je ne fus pas un quart d'heure à Montelon que nous étions comme si nous nous fussions connus toute notre vie. C'est qu'elle a de la facilité dans l'esprit et que nous n'avions point de temps à perdre. Mon fils est demeuré en Flandre. Il n'ira point en Allemagne. J'ai pensé à vous 1000 fois depuis tout ceci. Adieu.